Bonjour auditeurs, auditrices, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébrunch, l'émission qui n'a pas peur de se vautrer dans son popcorn. Je suis Louis Laramie et je suis accompagné aujourd'hui de mes co-animateurs Jim Boulay.
Hey, salut!
Et Mélina Lopez-Nado. Comment ça va, guys?
Ça va bien, toi?
Ça va numéro un.
Ça, on aurait parti à un jeu pour enfants, là, tu sais, mais au lieu des balles, ça serait du popcorn, là.
Genre se baigner dans
un bain. Oui, ça serait bien. Hein?
Tu sais, il y a déjà des problèmes de, comme, d'hygiène dans ces balles-là. Je suis pas convaincu que dans le popcorn, on va être. Tu sais, parce que c'est des enfants, ça n'a pas nécessairement comme les réflexes.
Ouais, de... puis le beurre, ça tâche. Fait que...
Ah, ça. Oh, merde, des vêtements gras, puis du sel, puis je pense cholestérol. Non, je pense.
Bon, on oublie ça.
De... Bel essai, par contre, Jim, j'aime beaucoup
écoute,
ça.
Écoute. Mais de toute façon, avant... ça ferait juste devenir très, très mou. Le popcorn, ça s'écrase.
C'est vrai que ça, ouais,
ça
finirait par
dessus,
la,
ouais.
la poudre de popcorn.
Mais si je peux me permettre d'aller sur cette idée-là, mais d'avoir quelque chose de plus intéressant, on pourrait faire ça dans les grains de popcorn non explosés.
Oh!
Dans
des très
grains de maïs,
très
juste de même. Je suis sûr qu'on aurait du gros fun. On en parle à 18h.
Bon.
Mélina, cette semaine, t'as une belle nouvelle à nous annoncer. Une nouvelle que j'avais vue également et que j'avais trouvée très drôle, mais comme ça vaut la peine qu'on en parle.
Ça vaut vraiment la peine qu'on en parle. En fait, ça s'est passé dimanche dernier, donc c'était les Tony Awards qui récompensent principalement l'art dramatique. Et là, il y a Robert De Niro qui est montré sur la scène, qui a fait un discours assez particulier. On va aller entendre un extrait.
Gentlemen, Robert De Niro.
I'm going to say one thing. F*** Trump.
Wow, c'est vraiment de toute beauté.
Quel moment de télé, quand même.
Trump, c'est au censeur de NBC qui a réussi à couper ça en chemin.
Ouais.
Mais fait qu'on voit que c'est un homme juste un tout petit peu politisé, quand même, M. De Niro.
Quand même. Il faut dire qu'il y a eu une ovation debout pour ces deux mots, en fait, qu'il a prononcés en direct à la télévision.
Je pense qu'il y a quelque chose à l'idée. Il y a beaucoup de supporters de Trump qui insistent que Trump est la meilleure chose qui est jamais arrivée au monde du spectacle et de l'humour.
Ah oui, ben là. Puis,
c'est dans des moments comme celui-là qu'ils ont peut-être quelque chose.
Oui, ouais,
peut-être.
Moi, cette semaine, je vous parle dans le monde des affaires puis de ces affaires-là. L'histoire de DC Comics, qui ont entre autres produit les Batman, Superman, Suicide Squad de ce monde. Il y a cette année un seul film de DC qui va sortir qui est Aquaman, qu'on va voir cet été, qui semble très bon, et j'ai beaucoup d'amour pour Jason Momoa, parce que c'est le géant de mon cœur. Mais il y a aussi des nouvelles à propos du fait qu'il va bientôt y avoir trois différents films de Joker qui vont sortir dans les deux prochaines années, c'est-à-dire que un Joker avec Jared Leto, Birds of Prey, qui est centré autour de Harley Quinn, mais qui va très certainement inclure le Joker, probablement celui de Jared Leto. Un autre film qui n'est pas encore nommé, qui s'appelle juste Le Joker jusqu'à présent, qui va être joué par un autre Joker que Jared Leto.
C'est donc bien étrange.
Et potentiellement Suicide Squad 2, qui va également inclure Jared Leto comme le Joker.
Mais est-ce qu'il va y avoir Batman là-dedans ou c'est vraiment juste sur l'histoire, les origines du Joker ou choses comme ça?
Pas clair. Okay. Également, parlant de Batman, il y a aujourd'hui, cette semaine a été annoncé que le nouveau film Le Batman, qui devrait commencer la production début 2019, ne sera pas centré sur le vieux Batman, mais bien sur un jeune Batman qui ne sera pas Ben Affleck parce qu'il coûte trop cher et n'est pas très bon à l'écran jusqu'à présent du moins. Fait que à voir pour la suite des choses.
Eh bien,
Jim.
Oui.
On fait tous partie de cette famille, même si on est petit.
Raise your head close to my heart, never to part, baby of mine.
Montre-leur, vas-y Dumbo.
C'est magnifique.
Est-ce que vous avez reconnu, est-ce que vous avez deviné de quoi il s'agissait?
Mais c'est Dumbo! Clara.
C'est la bande-annonce du nouveau
Dumbo
film.
Dumbo 2 qui s'en vient.
Dumbo, mais pas 2, l'adaptation de Tim Burton, du film, en fait, de l'histoire Dumbo, le petit éléphant volant. Donc, voilà, on a eu cette semaine le premier trailer officiel, c'est pas une bande-annonce, mais...
Puis c'est Tim Burton qui produit cette histoire-là, ou réalise cette histoire-là?
Il réalise cette histoire-là, et les comédiens sont relativement intéressant. Il y a quand même Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, pour ne nommer que ceux-là, qui vont jouer dans ça. Donc, c'est pas un dessin animé.
Helena Bonham Carter va être là.
Je n'ai pas fait la liste complète du casting, mais...
Tim Burton est là, fait que...
Ouais, c'est ça. Mais quand même, ça m'a l'air intéressant. L'approche a l'air intéressante. Ça dure quelques secondes, là, évidemment. On en sait peu, mais le film va sortir en 2019.
En tout cas, si c'est pas bon, on va s'en rappeler longtemps, parce qu'on a des mémoires d'éléphants.
Oh!
Mélina, t'as été voir un film cette semaine qui semblait plein de progestérone. Non, mais en fait, qui semblait plein de plaisir et de fun.
Oui, en fait, oui. Oui, Louis, merci pour cette belle introduction.
Je travaille fort, j'ai un peu mal aujourd'hui, là.
Arrivez-vous à deviner de quel film Louis parle?
Chien sous enquête.
Non, ça aurait été de Canesterone.
Uh-huh. Mais non. Non, en fait, si vous ne connaissez pas la trilogie Danny Ocean ou Ocean, la trilogie qui a commencé en 2001, donc, c'était une suite de films avec plusieurs acteurs connus, dont George Clooney, Brad Pitt. Et là, cette année, on a décidé de faire un spin-off de cette trilogie-là en faisant Debbie Ocean's 8. Donc, on va aller écouter tout de suite la bande-annonce.
Dans 3 semaines et demie aura lieu le grand bal annuel du mai. Et nous allons le cambrioler. Pas le bal en tant que tel, mais le coup de Daphne Kluger.
On l'évalue à plus de 100
millions de dollars. C'est 150 millions en réalité.
Et tu vas te venger, c'est encore mieux.
On ne fait pas deux coups à la fois, Debbie.
Donc, c'était la bande-annonce du film Debbie Ocean's 8. Donc, dans le rôle de Debbie Ocean, en fait, c'est Sandra Bullock qui prend ce rôle-là. Donc, elle se trouve à être un peu... c'est la sœur de Danny Ocean, donc de George Clooney. Mais c'est pas sa sœur dans la vraie vie, on s'entend, mais dans le film, elle joue sa sœur. Et il y a Kate Blanchett qui joue un peu l'acolyte de Sandra Bullock. Et qui se trouve un peu à reprendre le même type de relation qu'il y avait entre George Clooney puis entre Brad Pitt. Ça se trouve être la même genre de relation qu'ils vont reprendre eux autres aussi, donc ça fait un rappel au film. Et sinon, dans les 8 autres femmes, il y a entre autres Helena Bonham Carter, qui était, moi je l'ai trouvée franchement très bonne là-dedans, et surtout à l'opposé de Bellatrix Lestrange dans Harry Potter, mais bien évidemment. Et il y avait aussi Rihanna, qui était quand même bonne pour une personne qui n'est pas actrice à la base. Et elle se faisait surnommer Nineball dans le film parce que c'était elle qui jouait à la pirate informatique. Et au lieu d'avoir une souris d'ordinateur, elle utilise une balle de billard, la boule numéro 9. Donc, c'est cute. Il y a Anne Hathaway qui va jouer la personne à qui on va voler le collier, qui est vraiment excellente dans son rôle. J'ai vraiment trippé sur elle dans ce rôle-là. C'est différent de ce que j'étais habituée de la voir. Et il y avait aussi Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina. Et c'est ça. Il y avait plusieurs caméos dans le film.
Si je peux t'arrêter juste une seconde pour une rapide mention. Awkwafina, qui est à la base une artiste rap, qui avait sorti une couple d'albums qui sont vraiment, vraiment très drôles. Je recommande d'aller voir les vidéoclips de ces choses-là.
Bon, allez voir ça, tout le monde. Allez voir les vidéoclips de Awkwafina. Sinon, pour les caméos dans le film, il y avait entre autres Kim Kardashian, il y avait les joueuses de tennis Maria Sharapova et Serena Williams, il y avait Heidi Klum, il y avait Katie Holmes, qui a échangé même quelques phrases dans le film. Donc, plusieurs caméos. Il y avait Matt Damon qui était censé faire un caméo, mais finalement, ça a été retiré à cause de je sais pas, un certain discours qu'il aurait fait.
Ouais, au niveau politique, il s'est un peu mis les pieds dans la bouche quand il a parlé du Me Too Movement, sans savoir de quoi il parlait.
Exactement, c'est ça qu'il a fait. D'accord. Donc, pour le film en tant que tel, moi, honnêtement, j'ai bien aimé ça. C'est sûr que je suis une fan de la série. C'est pas le film de l'année, mais c'est drôle. Puis, honnêtement, Sandra Bullock et Anne Hathaway sont très, très bonnes dans leur rôle et les autres personnages aussi. C'est un peu long à partir au début, mais sinon, la structure du film vraiment ressemble à celle du Ocean's 11, 12 et du 13. Donc, on les voit planifier un coup et faire le coup. Et c'est vraiment le fun à voir. Moi, j'ai trouvé ça divertissant. Il y avait des moments très drôles dans le film. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant aussi de voir cet ensemble de vedettes féminines ensemble partager l'écran. Puis je trouvais que ça se prenait très bien. On n'était pas du tout dans le film de filles. Fait que je trouve que c'est vraiment bien fait pour ce qu'ils voulaient faire, de mettre ces femmes-là en vedette. Puis je sais pas si je suis peut-être un peu... c'est pour ça que j'aurais aimé avoir votre avis. En fait, je sais pas si vous l'avez vu. Jim, je sais que ça l'a pas vu. Louis, tu l'as-tu vu?
Malheureusement, j'ai pas eu le temps.
J'aurais aimé savoir votre avis parce que moi, de mon point de vue féminin, j'ai vraiment trippé sur le film. Ah, mais oui, j'aurais été curieuse de voir... Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme, en pensiez, mais bon.
Ben, on verra peut-être une autre fois, mais est-ce que tu l'as trouvé meilleur qu'Ocean 13? Parce que personnellement, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le 11, le 12 correct, mais le 13, j'ai trouvé pas écoutable.
Moi, c'est le contraire. C'était le 12 que j'avais eu beaucoup de difficultés
avec. C'est le 12 qui est pas écoutable. Le 13 est correct. Oui.
Ah non, moi, j'ai trouvé que le 13 était...
Mais moi, je l'ai trouvé bon, mais je veux dire, c'est une recette, tu sais, on applique une recette d'une trilogie qui a fonctionné et on voit que on est encore une fois, c'est tous des grandes actrices, comme c'était des grands acteurs dans la trilogie originale. Donc pour ça, c'est très bien, c'est très bien joué, mais c'est la même recette, là. Faut pas s'attendre à quelque chose de différent. Mais c'est rafraîchissant parce qu'au lieu d'être 11, 12 ou 13 hommes, ben c'est 8 femmes ensemble. Mais on réussit à rendre ça très bien, à rendre ça aussi... On retrouve la même chimie entre Cate Blanchett et Sandra Bullock qu'il y avait entre Brad Pitt et George Clooney. Et moi, je trouve qu'il était vraiment le duo qui faisait que ce film-là était aussi drôle. Ouais, on voyait vraiment la chimie entre les deux. Pour dire que c'est des amis aussi dans la vraie vie. Donc, ça avait l'air, autant à l'époque de la trilogie originale, ça avait l'air d'une gang d'acteurs qui se sont mis ensemble et qui ont décidé vraiment de faire un projet pour se faire du fun. Je trouvais qu'on retrouvait vraiment le même ton dans ce film-là, mais bon, un peu différent. Mais pour ma part, j'ai vraiment aimé ça. Donc, je donne un 8 à ce film-là. Debbie Ocean, si vous avez aimé la trilogie originale, honnêtement, ça vaut la peine d'aller le voir. C'est sûr que, comme je disais, ça serait intéressant d'avoir le point de vue masculin sur ce film-là, mais peut-être dans les prochaines semaines si vous allez le voir.
Il y a des belles chances que j'aille le voir. Là. Moi, c'est vraiment juste une question de mon horaire un peu chargé parce que je suis pas capable de gérer un agenda. Mais moi, je serais curieux de savoir en fait parce que, surtout avec les désastres, ou à tout le moins les problèmes qu'il y a eu des reboots entièrement féminins comme Ghostbusters qu'on a eu l'année dernière, je serais curieux de savoir là, comment est-ce que celui-là réussit à fonctionner dans cet univers.
Hum mm-hmm.
Mais merci beaucoup, Mélina, de cette critique fort intéressante. Moi, cette semaine, j'étais voir un film d'horreur. Mais tu sais, de l'horreur comme bizarre, puis pas exactement traditionnel, puis c'était comme une espèce de A Quiet Place qu'on a vu, que j'ai vu il y a quelques semaines déjà, et Les Vieux Exorcistes. Fait que c'est un espèce de nouveau genre, mais qui parle de religion bizarre. On va juste, très rapidement, aller écouter la bande-annonce pour se mettre dans le mood.
Allez, Peter. Habille-toi.
C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. Ma mère était une femme très secrète et réservée. C'est grand-mère. Tu sais que tu étais sa préférée, hein? Quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. C'était une femme extrêmement difficile, ce qui doit expliquer mon caractère.
C'est quoi qu'on entend? Une goutte d'eau?
C'est, dans le fond, c'est une famille de quatre. Donc, c'est un père, une mère et leurs deux jeunes enfants. C'est un adolescent, Peter, de la jeune adolescence, là, 16-15 ans, et une jeune femme de 12-13, Charlie, est un enfant spécial, là, qui préfère passer son temps à faire des jouets, à jouer avec des trucs dans le bois. Elle dort dans sa maison, dans les bois, plutôt que dormir dans son lit parce que là, qu'elle se sent confortable. Et
c'est glauque un peu.
Elle a un tic verbal.
Ah oui.
À l'occasion, juste
comme
ça.
Oh, ça peut rendre ça glauque. Ça peut rendre ça glauque.
Okay. Ben, ouais, c'est utilisé d'ailleurs. Rapidement, le petit résumé officiel. Aujourd'hui, on enterre grand-maman. Toute la famille est plongée dans un deuil pour cette femme mystérieuse qui n'a pas laissé que de bons souvenirs. La poussière est à peine retombée que sa fille, Annie, croit percevoir sa présence dans la maison. Son mari ne s'inquiète pas outre mesure de cette hallucination, alors que les enfants vaquent à leur occupation. Peter souhaite particulièrement vivre son quotidien d'adolescent à fond, délaissant sa jeune sœur, Charlie. Cette dernière était la préférée de sa grand-mère, et elle aussi commence à voir rôder des ombres dans la demeure familiale. Une menace plane, prête à s'abattre à chaque moment. Rapidement, Toni Collette, Gabrielle Byrne jouent les deux rôles principaux des parents. Toni Collette particulièrement, qui joue la mère, est absolument, absolument extraordinaire. Elle a un visage excessivement expressif qui est utilisé à son plein dans ce film-là. Gabrielle Byrne fait un excellent straight man qui refuse de croire un peu à ce qui se passe. Milly Shapiro, qui joue la jeune fille Charlie, est incroyable. Son visage un peu vacant dans plusieurs des scènes est extraordinairement crédible. C'est un film qui est excessivement beau. J'ai pas regardé qui faisait la direction photo, mais c'était d'une beauté sans pareil. Beaucoup de scènes de nature, beaucoup de scènes de parté éclairées de manière vraiment très crédible, mais en même temps très expressive. Des idées originales, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où j'ai fait « je n'aurais pas pensé faire cela comme ça ». Pourquoi est-ce que j'essaie de continuer de parler de tout ça sans vous parler de l'histoire?
Oui, c'est ça, pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas.
Parce que... Non, il y en a trop! Ah. C'est un film en deux parties. C'est vraiment, tu sais, normalement, la méthode traditionnelle de cinéma, c'est acte 1, acte 2, acte 3. On commence directement à l'acte 2. C'est-à-dire que le film ouvre sur la famille qui s'en va au funérailles de la mère. Là, ce qu'on a entendu dans la bande-annonce, c'était ça. C'était les premiers 5-10 minutes du film. On voit vraiment cette femme très dure, très austère, très secrète qui habitait avec la famille, mais ne participait pas vraiment. Elle avait des amis dont on ne connaissait pas vraiment l'origine. Il y avait des symboles bizarres associés à un paquet d'affaires. Et la première partie est vraiment une espèce de... C'est même pas tant un film d'horreur, autant qu'une espèce de thriller autour de la mort, du deuil, de la maladie mentale, parce que la grand-mère aurait souffert de... Dissociative Identity Disorder, de personnalité...
Trouble de personnalité...
Trouble de personnalité multiple, trouble de personnalité dissociée. La fille serait sur le spectre de l'autisme, la mère aurait des problèmes, le frère aurait été schizophrène. Bref, vraiment, vraiment sombre, vraiment très lourd. Il y a une scène, entre autres, dans un espèce de groupe de soutien pour gens qui ont perdu un être cher, qui est particulièrement... profond et crédible et intense. Puis là, à un certain point où est-ce que justement il commence à y avoir les éléments plus horreur qui commencent à se glisser dans le film, puis à un certain point, il y a une coupure. Puis pour ceux qui vont aller voir le film, il y a une scène et vous allez la reconnaître, vous allez la voir, où est-ce que la transition se fait. Où est-ce qu'on passe carrément d'un film où est-ce que ça se passe principalement dans la tête des personnages, qu'il y a une incertitude vraiment à ce niveau-là, où est-ce que ça fait... Wham! Non, on est dans un autre film. Puis là, je pense qu'ils sont tombés dans le piège d'un nouveau directeur, surtout pour l'horreur. C'est-à-dire que plutôt que de s'aligner vers plutôt que de nous laisser deviner les multiples chemins que pourrait prendre l'intrigue, il nous impose des fausses pistes. Donc, il y a, à un certain point, plusieurs branches de l'histoire, plusieurs morceaux de dialogue, plusieurs scènes qui ne payent jamais. Et on sent que c'est volontaire, là. C'est monté pour que ce soit pas nécessaire vraiment, mais que ça aurait pu être bâti dessus, mais que c'est toujours la limite entre la santé mentale, la magie, le surnaturel, l'horreur de ces choses-là, pour que finalement ce soit probablement ça finit, en tout cas, c'est pas que ça finit, mais il y a vraiment à un certain point une lignée qui est choisie et elle est particulièrement cliché, ce qui rend ça particulièrement décevant pour un film qui avait énormément d'ambition, qui a, je ne répéterai pas assez, la photo, mais également le son de ce film-là, avec l'usage vraiment parcimonieux mais très intéressant du qui laisse présager toujours ce personnage-là, qui en même temps c'est jamais clair parce que c'est un son qui est quand même facile de faire dans le langage quotidien sans s'en rendre compte. Donc c'est, il y a plusieurs moments où j'étais vraiment impressionné, j'avais vraiment l'impression qu'on allait vers quelque part, mais à chaque fois c'était un meilleur setup pour me décevoir, fait que j'ai pas. Je donne ce film-là un 6.5 pour...
Ça passe.
Ça passe, c'est intéressant. Pour les fans de films d'horreur, ceux qui en ont jamais assez, c'est clair que vous allez le voir parce que c'est bon, là. C'est pas mauvais. Il n'y a pas de moment où j'ai fait « bon, je m'en vais, je sors de la salle ». Mais pour quelqu'un qui se demande si c'est le film d'horreur de l'année qu'il va aller voir, A Quiet Place, qu'on a vu il y a quelques semaines, était bien meilleur. Puis ça, c'est sans compter qu'on est juste en juin et que le futur nous réserve peut-être encore de grandes surprises d'horreur.
Surtout probablement à l'automne.
Ouais, absolument à l'Halloween. Là, c'est comme une grosse saison de ces choses-là. Puis de... En tout cas, étant moi-même pas tant un fan d'horreur en plus, là, moi, je vais là parce que personne ne voulait aller voir Chien sous enquête, très sérieusement. j'ai donc été, c'est donc à mon corps défendant que je vais voir des films d'horreur, mais honnêtement, j'y prends goût de plus en plus. Et malheureusement, celui-là n'est pas celui avec lequel je me suis satisfait.
Bon, ben enfin.
Écoute, on fait avec ce qu'on a.
Ben non, regarde,
écoute. C'était quand même très intéressant, puis je pense que ce que j'ai aimé, puis pourquoi je le compare autant avec A Quiet Place, c'est que ce sont deux films qui essayent autre chose. Ce ne sont pas des films d'horreur traditionnels, ce n'est pas Amityville 8000, ce n'est pas L'Exorciste 3400, ce n'est pas Jason 10000. Tu sais, c'est autre chose que ces formules déjà essayées. C'est d'autres aspects de la peur qui sont vraiment travaillés. À Quiet Place, c'est d'avoir peur de faire du bruit qui était vraiment inhabituel. Là, c'est vraiment une espèce de peur de la famille, mais en même temps de sa propre... En tout cas, donc oui, je 6.5, mettons 7, là, s'il fait vraiment chaud et que vous avez besoin de la climatiser.
Bon, enfin.
Yes.
Merci, Louis.
C'est un plaisir.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti avec les chums de...
Les sorties! On a plein d'affaires qui s'en viennent cette semaine. En fait, pas vraiment. On a... pas dans tant de stock. On a American Animals, qui est un drame britannique et américain, réalisé par Bart Layton, mettant en vedette Evan Peters, Blake Jenner, Anne Dowd et Barry Keoghan. Quatre jeunes hommes préparent le braquage le plus audacieux de l'histoire des États-Unis. J'ai sûrement rien entendu parler de ce film-là, mais juste ce petit synopsis-là me donne envie de le voir. Monde jurassique, le monde déchu. Jurassic World, Fallen Kingdom. Aventure de science-fiction américaine et... espagnole? Réalisé par G.A. Bayona, mettant en vedette Chris Pratt, Bryce Dallas, Howard James Cromwell, Jeff Goldblum, Ted Levine, Toby Jones. 4 ans se sont écoulés depuis les événements qui ont permis aux dinosaures de reprendre le contrôle d'Isla Nuba. Pourtant, une menace gronde, soit le volcan sur l'île qui promet une extinction certaine de ces dinosaures. Owen et Claire décideront de faire équipe, malgré leur séparation, pour sauver quelques dinosaures, dont Blue, qui avait été élevé en captivité par Owen. Sur l'île, ils découvriront une conspiration qui pourrait dangereusement faire basculer le règne sur Terre. Écoute, c'est ce que c'est.
En tout cas, j'ai vu la bande-annonce, puis ça me tente pas d'aller voir ça.
Moi non plus. Rodin, drame biographique français et belge, réalisé par Jacques Doillon, mettant en vedette Vincent Lindon, Izia Higelin, Séverine Canel, Bernard Verlet et Anders Danielson-Lyme. À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin, à 40 ans, sa première commande de l'État. Ce sera la Porte de l'Enfer, composée de figurines, dont certaines feront sa gloire, comme le Baiser et le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu'il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée, qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. 10 ans de passion, mais également 10 ans d'admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face au refus et à l'enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac. Rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne. À 60 ans, enfin reconnu, il devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange.
Moi, ça m'intéresse parce que c'est le troisième film d'artiste qui va passer dans les derniers 12 mois.
Oui, avec Gauguin, entre autres.
Gauguin puis Van Gogh.
Oui, oui, oui.
C'est vrai. Oui, je suis curieux.
Moi, j'ai
ils vont finir par en manquer.
Moi, j'ai vu le ballet à un moment donné. Il y a 2 ans, ils ont fait... Ben, il y a un ballet de Rodin Claudel, je l'ai vu, et c'était magnifique. C'est un des plus beaux ballets que j'ai vu. Ça présentait... Je ne sais pas si c'était les grands ballets canadiens qui le dansaient ou qui le présentaient. Mais c'était vraiment une belle histoire. Ben, c'est pas une belle histoire, mais c'était vraiment un beau ballet. Puis je pense que ça vaut la peine d'aller voir ça. Je suis curieuse, moi aussi.
Moi, j'ai hâte de voir quand ils vont faire René Magritte, mais ça, c'est moi puis mes préférences personnelles. L'École buissonnière, comédie dramatique française, réalisée par Nicolas Vanier, mettant en vedette Jean Scadelle, François Cluzet, Éric Elmosnino, Valérie Carcetti et François Berléand. Comédie dramatique française, c'est un peu comme un pléonasme, ça, right?
Très drôle, oui.
OK, c'est beau. Paris... hey, je me trouve vraiment drôle. Paris 1930, Paul n'a toujours qu'un seul et même horizon, les hauts murs de l'orphelinat. Sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine, et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine en Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d'une région souveraine et sauvage. L'immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au comte de La Frenaille, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le comte tolère les braconniers sur le domaine, mais Borel les traque sans relâche et s'acharne sur les plus rusés et insaisissables d'entre eux, Totoche. C'est très français. Au cœur de la féerique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l'apprentissage de la vie, mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n'est pas venu là par hasard. Pam, pam, pam!
Eh bien.
À voir par Jim.
pas pourquoi. Hein?
Donc, ce serait ça pour les sorties de la semaine prochaine. Jim, cette semaine, je regarde mon planning, puis j'ai l'impression que tu as été voir un film de fesses.
Presque.
Est-ce que...
un film de tout nu?
Est-ce que c'est rated
high? Non, ou c'est très familial, mature, très accessible.
Parce que tu as été voir Normandie nue.
Oui, exactement. Comédie française co-écrite et réalisée par Philippe Leguay. Ça met en vedette, entre autres, François Clouzet, qui jouait, souvenez-vous, le paraplégique dans Les Intouchables. Ça met aussi en vedette l'acteur anglais Toby Jones. Ça fait d'ailleurs assez drôle de le voir dans un film comme ça. On l'a vu d'ailleurs dans Atomic Blonde récemment et on va le voir dans Jurassic World dans un peu de temps.
Mais il était d'ailleurs excellent dans Atomic Blonde, je sais pas de quoi il a l'air. Écoute, la Normandie
c'est,
tout nu.
Écoute, c'est particulier. Alors, on écoute la bande-annonce.
On travaille 15 heures par jour et tous les mois le prix de la viande baisse un peu plus. Je suis le maire, nom de Dieu. Nous, on est en train de crever à petit feu.
What the fuck is going on?
Balbu, il y a un gars qui veut passer là. Il dit qu'il est américain.
Monsieur Newman va demander aux gens du village de venir poser.
Enlevez les vêtements, make it.
De poser tout nu?
Ça sert à rien de bloquer les routes, faut frapper plus fort.
On est déjà à poil, on va pas se déshabiller en plus.
On va se mettre tout nu sur un champ. Tout le village, tout nu.
Si on fait cette photo, ça fera pas 1:30 aux actualités régionales. Ça sera un raz-de-marée.
Et dans 10 jours, tous au champ Cholet.
Les Américains ne mettront jamais le pied chez moi.
Tu vas la montrer, ta quéquette?
Écoute, Maurice, on est en guerre.
J'ai pas envie, je te dis.
Bref.
OK!
Ça a l'air donc, cute!
Normandie nue.
Juste un instant, juste avec la bande-annonce.
Oui.
Avec un titre comme celui-là, puis un synopsis comme celui-là, on aurait pu s'attendre à quelque chose de vulgaire et un peu pipi-caca. Mais honnêtement, juste à ce qu'on entend, ils ont essayé de s'élever un peu plus haut que ça quand même, là, en
parlant justement de... Non, l'idée est intéressante. Écoutez, ça se passe, vous l'aurez deviné, en Normandie, hein, Normandie nue. Dans le petit bled de Mail-sur-Sarthe, c'est près d'Alençon, L'histoire est particulièrement, en tout cas, partiellement narrée par une jeune adolescente parisienne qui déplore l'idée obscure de ses parents de s'installer, de quitter la capitale pour s'installer en campagne où il n'y a pas grand-chose à faire pour elle. Mais en fait, tout ça sert à peu près à rien parce que l'histoire, c'est plutôt une histoire qui concerne les agriculteurs de la région qui vivent des moments difficiles avec la baisse du prix de la viande et des tensions territoriales. Malgré leurs moyens de pression, peu d'attention donc leur est donnée au niveau des médias. Et un jour, alors que le réputé artiste photographe américain Blake Newman, qui est connu pour ses photographies de foule nue, passe par là et se prend dans un embouteillage causé par une manifestation, il se prend d'affection pour une terre agricole de la région, le Champ Cholet, et il projette d'y faire une photo avec le village en entier, tout nu. Donc, un clin d'œil ici au photographe Spencer Tunick. Mais dans tous les cas, le maire du village, George Balbuzard, ou plutôt Georges Balbuzard, joué par François Clouzet, y voit une opportunité de donner de la visibilité à la cause des agriculteurs locaux. C'est quand même intéressant. Là, j'aime bien les films français qui se passent en campagne en général parce que c'est toujours très beau, ça sort du quotidien. On est dans une ambiance assez proche de celle de Bienvenue chez les Ch'tis au niveau de ce film-là, en termes d'ambiance générale, si on veut. Mais les Ch'tis étaient définitivement plus drôle. J'ai quand même passé un bon moment à regarder ce film-là. Les images, la photo sont correctes. Mais au niveau du récit, il y a vraiment trop d'affaires dans le film. C'est un peu ça le problème, en fait. Il y a des moments où j'avais un peu l'impression de regarder un vieux film français des années 50-60. Une histoire d'amour d'un côté, une affaire de jalousie de l'autre, une vieille querelle sur la propriété d'un terrain, un citadin névrosé allergique à la nature, une ado qui sert absolument rien dans le film, mais qui est beaucoup trop présente, la nostalgie d'une enfance lointaine, bref, 15 courts-métrages en un film, ou presque. Et franchement, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que juste l'affaire de photo, ça aurait peut-être donné une demi-heure, pas plus. Donc, voilà. C'est ça, écoutez, c'est pas un mauvais film. La musique qu'on entendait dans c'est très bonne musique, hein, très, très beau. Par contre, un peu trop répétitif, c'est le même thème qui revient tout le long du film. Je pense qu'il y avait une toune dans le film. Elle est très bonne, mais ça aurait été bien un petit peu plus de variété. Sinon, c'est ça. Écoutez, je donne un 7 sur 10 au film. C'est pas énorme, mais le film est pas mauvais. Là, j'ai passé un bon moment, mais un petit peu une construction toute faite. Très typique du cinéma français des années 2000 qui n'ose pas trop changer les règles. On est vraiment dans le typique. Et vraiment beaucoup trop de front pour rien dans ce film-là. Il y aurait peut-être eu un meilleur film, un peu plus court avec la moitié du casting, ça aurait été bien, mais l'acteur Toby Jones, écoute-moi, j'adore cet acteur-là, je le trouve vraiment drôle, puis de le voir dans un film français, c'est encore plus intéressant. Le clash culturel... c'est intéressant. Fait que voilà, c'est ça l'histoire de la chose, donc 7 sur 10, c'est pas mauvais, mais... C'est pas un grand film non plus.
Bon. OK, ben écoute, c'est une comédie française en partant. On peut pas s'attendre à trop non plus. Mais... merci beaucoup, Jim, pour cette très intéressante critique.
Et merci, Laurier.
Donc, cette semaine, comme à notre habitude, un film québécois est sorti.
Mm-hmm.
Fait qu'on a tous été le voir ensemble pour en faire une critique commune. Mais là, tout ensemble. C'est arrivé comme une couple de fois, mais honnêtement, nos horaires sont un peu trop différents ces temps-ci. Fait qu'on a été le voir chacun de notre bord.
Ouais.
On a été voir Identité, le plus récent film de Samuel Thivierge, jeune réalisateur, scénariste, acteur, producteur financier de la région du Saguenay, en fait, qui est originaire d'un petit village de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qui, à 28 ans, est déjà à son deuxième long métrage produit au cinéma. Le premier était La fille du Martin. Donc, Identité est un film qui parle de. De Christopher Bégin. Issu d'un milieu modeste et d'une famille dysfonctionnelle, il tombe rapidement dans la criminalité. Le jeune homme commence par vendre de la drogue à l'école et lorsqu'il se fait expulser de celle-ci, il rencontre deux maîtres dans l'art de l'usurpation qui lui enseigneront les rudiments du mensonge et de la supercherie. Chris se découvre un talent particulier dans ce domaine, mais piéger des innocents finit par l'agacer au point où il pense lâcher le métier. Mais abandonner ce monde pervers n'est pas chose facile, il devra user d'ingéniosité pour penser s'en échapper. Mettons en vedette Samuel Thivierge. Sammy Nasri, qu'on connaissait...
Taxi,
entre autres. Léa Girardeau, Gilbert Sicard, qu'on avait connu, entre autres, dans... je ne me rappelle plus quoi. Mais aussi pour le scandale autour de ces sacres qu'il aurait donné aux acteurs. On va aller écouter la bande-annonce, là, juste pour se mettre dans le mode.
Absolument.
Moi, c'est Kevin Quaid. J'ai 25 ans. J'ai pas fini mon secondaire. Et je vais être millionnaire. Un mensonge en cache d'autres. C'est pour ça que la vérité n'apparaît jamais du premier coup.
Bien, bien. Suis-moi. J'ai une proposition à te faire pour que tu puisses exploiter à fond tous tes talents.
Je le sens pas, ce gamin, Roger.
N'utilise jamais ton identité en celle des autres. J'ai un petit job pour toi.
Monsieur Quaid. Monsieur Morancy.
Oui, comment tu l'as trouvé? Il
m'a fait une offre sans même négocier. J'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai.
Là, un peu de fabrication de saucisses. J'étais le dernier à voir le film des trois. Et dès que j'ai dit « Ah, je m'en vais voir le film ce soir », je me suis fait dire par mes deux co-animateurs qu'il y avait vraiment, vraiment hâte d'entendre ce que j'avais à dire sur ce film-là.
Oui, on a hâte.
On a hâte.
Fait que c'est un film à propos de Christopher Bégin, aucune relation avec Christian Bégin. Jeune homme blond, beau, yeux bleus, qui à l'école fait des niaiseries parce qu'il veut gagner du cash, parce qu'il vient d'une famille qui a de la misère. Il y a un père qui était pilote d'avion qui finalement a scrappé sa carrière pour une raison qu'on nous explique jamais, qui est tombé dans l'alcoolisme. Fait que ça donne un jeune homme qui veut avoir le plus d'argent possible sans se soucier de la moralité pour devenir pilote d'avion. OK, là, juste pour qu'on soit clair, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec autant de clichés, barre en barre du scénario, où est-ce que c'est écrit, t'as quasiment l'impression que tu peux lire les lignes avant même qu'ils disent, juste en doutant un peu de qu'est-ce qui est en train de se passer. Je pense que le meilleur exemple pour moi, c'est dans les premiers 10-15 minutes du film, où est-ce qu'il est question de ses relations familiales, puis là, on le voit juste avec sa mère, puis là, il dit... moi, c'est Christopher, mais on m'appelle Chris. En tout cas, ma mère m'appelle Chris. Puis là, il est comme... Mais mon père m'appelait Chris. Puis là, c'est comme sous-entendu que son père est absent. Il est peut-être mort. Mais c'est comme clair quand tu vois le setup de comment c'est installé que son père est juste alcoolique. Il est pas parti, il est pas rien, mais les lignes de dialogue sont déjà écrites pour que tu saches exactement ce qui va se passer. Jusqu'au moment où il tombe avec les deux garagistes un peu louches d'origine française qui l'engagent pour nettoyer des chars, mais que finalement, c'est peut-être pour faire autre chose. Puis que... Ah, je sais pas comment expliquer ça. Là. C'était vraiment... ça aurait pu être bon. J'aime beaucoup les films de fraude, d'identité, de... Je veux pas divulgancher, mais je pense que la fin de ce film-là m'a déçu plus que Trip à 3. En tout cas...
Je suis content que tu parles de ça, j'ai une référence avec ça.
Ah, excellent. Fait que je donne un solide, très solide... En fait, voici comment je vais le noter, OK? En tant que film, 4 sur 10. C'est quand même beau, il y a une coupe de scène, ça donne de la job à des acteurs québécois. Je suis quand même impressionné, le gars a entièrement autofinancé le film. Il y a un budget de 1,1 million de dollars qu'il a été chercher lui-même sans l'aide de Téléfilm Canada, de les organismes locaux, culturels, soit du Saguenay, soit du Québec, du Canada. 4 sur 10. Par contre, comme PSA, Public Service Announcement, ou comme annonce publique, de ne pas frauder, un solide 8,5 sur 10. Là, comme si ce film-là avait eu à la fin, genre, Fisc Québec, j'aurais cru. Tu sais, j'aurais fait, excellent.
On apprend beaucoup de choses sur la fraude. On peut effectivement... moi, j'ai appris pas mal d'affaires. Alors, écoute, moi, j'ai trouvé ça quand même assez original, là, l'idée d'un film de fraude québécois de cet ordre-là. Bon, comme tu l'as dit, c'est le même gars tout fait. Là, le personnage principal est aussi le réalisateur, producteur,
scénariste
et tout le kit. Pour ça, franchement, un chapeau total, un jeune homme en plus. Deuxième film, j'ai pas vu son premier, mais en tout cas. Tu parlais de Trip à 3 tout à l'heure. Ben justement, moi, personnellement, j'ai préféré ce film-là à Trip à 3. Et il a coûté 6 fois moins cher que Trip à 3 à produire.
Wow, OK. Non, pour ça, c'est correct.
C'est quand même pas pire, ça, déjà à la base. Alors, ça, personnellement, je me demande juste qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec 6 millions au lieu d'1.1. Je me demande vraiment, ça aurait pu être encore mieux. On va juste parler des acteurs rapidement. Roger, là, Sammy Nasseri, le monsieur qui jouait dans Taxi, je le trouve absolument parfait dans son rôle d'un peu un peu croche. J'ai d'ailleurs compris peut-être pourquoi, parce que j'ai regardé sa biographie et j'ai vu qu'en fait, l'acteur se retrouve en justice presque à chaque année depuis 2006 pour diverses affaires, voies de fait, consommation de stupéfiants, violence, menace à l'arme blanche. Bref, il y a tout un véhicule, mais c'est surtout tout un acteur, sans parler de son regard captivant qui oh mon Dieu, hypnotisant, là, carrément.
C'est d'ailleurs un des problèmes du film qu'il soit si bon. Parce que ça met en évidence à quel point d'autres acteurs sont vraiment inégaux dans leur performance. Voir ici Samuel Thivierge qui, peut-être, avait trop de chapeaux sur la tête parce que, à certains moments, j'y croyais, j'avais vraiment l'impression d'être dans la version québécoise de Attrape-moi si tu peux. Puis, à d'autres moments, oui. J'avais l'impression d'être dans un cours d'acting donné par un professeur de théâtre sous. Fait que c'était difficile de voir particulièrement. Je pense que Samuel Thivierge, c'est une performance inégale. La jeune fille qui joue Gabrielle. Pas écoutable. Cette actrice-là était mal dirigée ou il y avait quelque chose, mais je l'aimais pas.
On peut-tu parler d'autres acteurs de soutien qui sont extraordinaires, comme la famille, là, le monsieur puis la madame qui sont fraudés? Gilbert
Scott, puis... Ouais.
C'est exceptionnel. Ouais. Ça, c'est dans les plus beaux acting de soutien que j'ai vu depuis plusieurs années. Là. C'est d'un réalisme. On finit par vraiment avoir de l'empathie pour ces gens-là, très, très, très profondément. Puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé que la plupart des acteurs étaient très bons. Il y a des exceptions à ça, évidemment. Effectivement, Samuel Thivierge n'est pas l'acteur... il ne gagnera pas un Oscar pour son acting, là, si on va se le dire. Là.
Ni même un iris.
Ni même un iris. Mais, en tout cas, c'est la vie. Sinon, j'ai aimé que le film joue énormément avec les émotions très humaines de culpabilité, l'espèce de suspense d'être coincé, d'être pris sur le fait pour faire une action illégale, des choses comme ça. J'ai aimé ça de voir un peu l'espèce de logistique de la fraude, ces choses-là. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que franchement, j'avais aucune idée de comment ça se faisait. J'avais une petite idée vague, là, mais de voir un peu le fonctionnement en action, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas jusqu'où c'est exact, mais... Fait que moi, je donne un 7.5 sur 10 à ce film-là.
Wow!
J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'indices pour la fin, parce que sinon, c'était soit trop prévisible, soit pas assez. Donc,
moments... Oui, ça filait un film policier cheap à la fin.
Ouais, ça faisait Agatha Christie un peu, là. Il y avait une craque sur le mur, mais personne ne vous l'a dit. Donc,
non, c'est ça. Finalement, c'est dans le garde-robe, puis barre de plomb est importante.
Il y avait des petits indices, là, mais en tout cas, j'ai peut-être mis une autre vision de ça, mais c'est ça. C'est pas un grand film, mais ça manque un peu de peaufinement ou d'expérience. C'est un jeune réalisateur, mais j'ai confiance. Je vais suivre ce réalisateur-là, clairement. Puis pour 1 million, j'ose pas me demander, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il pourrait avoir fait avec 6. Hein? Quand même.
Bon, on sait pas. Mais c'est aussi ça le problème de certains directeurs. Il y a des directeurs qui chaînent quand on augmente leur budget, voire Denis Villeneuve. Puis on a des George Lucas qui, quand on augmente trop leur budget, virent sa tête. Ouais, mais là, vas-y, shoot.
Shoot, le film Identité. Je suis pas mal d'accord avec ce que vous avez dit pour le moment, mais moi, ce que j'aimerais vous parler...
C'est dur, là. J'ai trouvé que c'était pas écoutant, puis Jim trouvait que c'était correct.
T'es d'accord avec qui, en fait?
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est un film écoutable. Je pense qu'il y avait certains moments, certaines performances qui marchaient moins à certains moments. Mais je pense que le film atteint quand même un certain objectif parce que moi, quand je suis sortie de ce film-là et même pendant le film, je me sentais très mal à un moment donné. Ça me faisait vivre de la culpabilité. Je me sentais pas bien. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, le film, selon moi, atteint son objectif. C'est sûr qu'au niveau de la performance de certains acteurs, c'était pas... Il y en avait que c'était moins fort que d'autres. Je crois également que peut-être c'est difficile de réaliser tout en étant devant la caméra parce que t'as pas le même recul. Donc je trouvais que il manquait un peu de ça. Et je trouvais que, comme un peu dans la chute de Sparte, la façon de parler du gars avec quelque chose qui faisait un peu artificiel, selon moi, je pourrais pas vous pointer exactement quoi.
Moi, je peux te le dire exactement quoi, en fait. Et c'était vraiment... Il y avait certaines scènes qui étaient particulièrement importantes, parce que tu le sentais. C'est-à-dire que la plupart du film, il parle avec un accent de français soutenu de Radio-Canadien. Puis à quelques moments, sur quelques phrases, et surtout des répliques monosyllabiques, il sort son accent du Saguenay gros comme le bras. Et ça donnait un moment où tu étais comme... Il parle d'un français sérieux, très...
Tu parles des narrations, là?
Non, je te parle de... Dans le film, l'acteur Samuel Thivierge, à l'occasion, t'avais l'impression qu'il parlait d'un français, comme je te dis, le radio-canadien, très, très posé, très correct. Puis là, surtout sur les les lents. Et sur,
Mais on reconnaissait son accent. Moi,
pas tout le temps.
J'ai senti qu'il était du lax avant de le savoir.
Pas tout le temps, et c'était ça qui était tannant.
OK, OK.
Puis c'est encore, tu sais, il y avait un peu le réflexe que beaucoup de Québécois ont, c'est-à-dire que tu venais à parler mieux quand tu parles à un Français.
Oui, oui. Puis je l'ai, moi, ce réflexe.
Tu le sentais vraiment fort que lui aussi l'avait, mais qu'il l'avait de manière inégale, comme si son personnage demandait quelque chose, mais que lui voulait faire autre chose. Mm. Ça fait partie des raisons pourquoi je trouvais que c'était vachement inégal comme performance.
Eh bien, mais pour revenir à ce que je disais, je sais pas si c'est tout à fait ça, Louis, qui me dérangeait dans sa façon de parler. Je pense que c'est quelque chose de plus que ça. Mais ce que je dirais aussi, c'est que je pense que le fait qu'il ait réalisé et tenu le premier rôle en même temps rend ça extrêmement difficile parce qu'il s'entend pas. Quand un réalisateur d'habitude est derrière la caméra, il voit, il entend, il y a un feeling de qu'est-ce qui se passe là. Quand t'es dans le premier rôle, c'est très difficile de porter les deux chapeaux en même temps. Donc je pense que dans le contexte, il a fait un travail quand même excellent, selon moi. Je pense que il a pris une tâche difficile qui est aussi de produire, de réaliser, de scénariser et d'être le premier rôle. Donc pour ça, je pense pas que je pense qu'il y a quand même vraiment du talent, ce jeune homme-là, parce que de pouvoir faire ces quatre choses-là et de donner un film qui a quand même une certaine qualité, je pense que ça prend beaucoup de talent. C'est sûr qu'effectivement, avoir quelqu'un d'autre à la réalisation, ça aurait peut-être donné quelque chose de différent. Mmh. Le voir diriger un autre acteur qui aurait pris le premier rôle aurait certainement donné quelque chose de différent. Mais je pense qu'il apportait beaucoup de son vécu à lui aussi dans ce film-là. J'ai lu que pour produire le film, c'est vraiment un film qui a été produit en famille et ils ont vendu l'entreprise familiale et une partie de la vente allait être investie dans le tournage. Et la fameuse vente est devenue finalement un cauchemardesque. Ça a été frauduleux, en fait. Donc, il a vécu un peu ce qui fait vivre à ses personnages et il dit qu'à partir de ce moment-là, il a réécrit le scénario pour rentrer dans plus le côté de la victime. Donc, c'est un film que t'es avec c'est un anti-héros, on te met dans sa peau à lui, mais l'envers de la médaille est très présent. On réussit très, très bien à sentir le malaise et tout ça des victimes. Donc, c'est ça qui rend ça, je trouve, extrêmement fort, c'est d'arriver à aller nous faire vivre ces deux trucs-là en même temps. Je vous dirais quand même que...
Je t'arrête une seconde, parce que c'est super intéressant, parce que moi, cette séparation-là, cette dichotomie-là, justement, entre quand tu vois le personnage d'anti-héros qui essaie de vivre ses drames, qui essaie de sentir comment est-ce qu'il gère ça, puis que de l'autre côté, tu vois le drame de la famille, au contraire, je trouvais que ça enlevait au point émotionnel d'un des deux et que ça rendait même le film plus confus, parce qu'il essayait d'avoir comme... tu sais, le lait et le beurre et l'argent du beurre en même temps. Là. Il essayait de, à la fois, aller chercher le poids émotionnel d'un drame familial grave où est-ce que, justement, il arrive des choses importantes à la famille qui est en train de perdre sa propriété, et à la fois, l'espèce de « Ah, mais je suis en train de tomber en amour avec elle puis je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis de comprendre mes motivations. » J'aurais aimé mieux, personnellement, qu'il se concentre sur un des deux plutôt que de forcer la donne pour avoir les deux en même temps, ce qui enlevait à mon... Mais tu sais, je trouve ça intéressant, les mêmes émotions, le même setup, on en tire deux choses complètement différentes.
Mais c'est que c'est très difficile parce qu'on est habitué à vivre un côté de l'émotion et là, de nous montrer les deux, ça nous demande un peu de se mettre dans la peau de deux personnages en même temps.
Moi aussi, j'aimais ça.
Puis ça, c'est vraiment pas facile. C'est déjà dur de se mettre dans la peau de quelqu'un, mais de deux personnes qui sont à l'opposé, qui vivent un les effets de l'autre, c'est très difficile.
Ça les rend plus humains. Il y a des personnages un peu evil là-dedans, on va se le dire, des personnages un peu diaboliques, mais outre ça, les autres, ils ont les deux côtés. Il y a souvent des références à « Ah, mais de toute façon, si c'est pas nous, ça va être quelqu'un d'autre. Sinon, de toute façon, c'est les assurances qui vont rembourser. » On n'atteint pas vraiment la personne. Mais quand la petite fille puis sa mère, la petite fille qui donne un dessin, là, c'est rough en maudit, ça. Comme, tu te dis, tu veux pas là, qu'il y ait fraude. Fait que ça, c'est... En tout cas, moi, ça a marché de mon bord. J'étais un peu tout croche quand je suis sorti de ça. Puis,
c'est du cas, j'avais dépensé autant pour du popcorn.
Bref. Mais non, mais quand même un chapeau à ce monsieur-là, qui est le jeune réalisateur Samuel Thivierge, qui, lui, veut faire un film, il s'arrange pour avoir son argent, mm-hmm. il fait son film, il attend pas comme beaucoup de réalisateurs qui font juste pas leur projet parce que oh, ils ont pas de financement de la SODEC ou de ci ou de ça. Moi, je trouve ça le fun de voir quelqu'un qui est vraiment motivé comme ça, qui veut vraiment faire des films. Je pense que
oui.
Il va prendre de l'expérience puis ça va aller de meilleur en meilleur, d'après moi.
Puis moi, je pense que ça vaut la peine aussi de l'encourager là-dedans parce que autant qu'on peut critiquer ce film-là, la triple tâche qu'il y avait à faire là-dedans est très difficile, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'effectuer cette triple tâche-là en même temps. Là.
Mm. Ouais, ouais, non, je reste avec ma note de 15 sur 10. Mais merci beaucoup, Mélina. Merci beaucoup, Jim, pour ces extraordinaires critiques. Ouais. Encore une fois, un autre film un peu contentieux.
Identité, on a chacun notre identité.
Mm. Mélina, tu n'as pas donné de note.
C'est vrai.
Écoutez, au niveau du film Identité, je pense que j'irai avec un 7 sur 10. Et puis, j'encourage les gens à aller voir ça. Ça va être un peu quétaine ce que je vais dire, mais j'encourage les gens à encourager le cinéma québécois. Parce que si les Québécois ne vont pas voir le cinéma québécois, qui va aller le voir?
Ouais, non. Moi, tu vois, je m'insurge un instant. Et c'est des choses qui me fâche quand on dit des choses comme ça. Parce que le cinéma québécois est un cinéma extraordinaire qui est en pleine croissance, qui réussit à aller chercher des nouveaux projets. Mais si à chaque fois qu'il y a un film québécois qui sort, on va le voir, peu importe ce qui arrive, ce qu'on encourage à faire, c'est sortir des films paresseux, moches, pas bons.
Mais je suis pas d'accord.
Moi, j'encourage pas personne à aller voir ce film-là parce que je l'ai trouvé pourri à chier. Puis ce que j'insiste encore, c'est l'espèce de nécessité, là, les blagues dans le commun des mortels de genre « Oui, mais la presse, le devoir va toujours donner 3 sur 5 à chaque film québécois, peu importe la qualité. » C'est vrai et ça me gosse. Parce que ça nous ramasse avec des films qui sont objectivement pas écoutables. Je vais être d'accord, là. Identité est vraiment pas si pire que ça. Moi, je l'ai vraiment pas aimé, mais il y a des qualités à ce film-là. Mais il y a d'autres trucs qui sont sortis plus tôt cette année ou l'année dernière qui, vraiment, là, n'auraient jamais dû être présentés sur une salle de cinéma contemporaine et qu'on aurait juste été mieux en tant que société de jamais produire ça. Mais qui a quand même eu un succès mitigé au box-office, qui a quand même eu des critiques correctes. Donc, non. Je pense que le cinéma québécois va s'améliorer si on exige la qualité de nos réalisateurs. Comment est-ce que je sais que c'est possible d'avoir la qualité de la part de nos réalisateurs? Ben, le déclin de l'Empire américain, ça fait plus de 15 ans qu'il est sorti, puis c'était excellent à ce moment-là, puis ça reste bon encore aujourd'hui, et j'ai très hâte de voir la suite de la semaine prochaine.
Oui, bon, on va effectivement voir ça la semaine prochaine.
Merci. C'est donc la fin de cet épisode de Cinébrunch. J'espère que vous avez apprécié notre popcorn et notre salade.
Ta salade, Louis, ta salade.
Ma salade, la salade en général. Ce fut donc un plaisir d'être avec vous pour ce samedi ensoleillé. Je vous souhaite une excellente semaine. Au plaisir.
À la prochaine.
Bonne semaine.